Je vous en prie, poursuivez.
Donc, je disais que en dehors de ces enjeux liés au fait qu'il y a certains acteurs qui sont dans le pouvoir et qui ne sont pas prêts à libérer, et d'autre part, les personnes qui sont au centre des préoccupations de la justice transitionnelle, mais qui n'ont pas tous les moyens de leur politique, n'est-ce pas? Je parle des victimes, là. Il y a un certain nombre d'autres aspects juridiques qui sont en train de conforter la lutte pour la justice transitionnelle. C'est comme le statut du Rhum qui parle de l'imprescriptibilité des crimes de masse. C'est-à-dire, ceux qui sont présumés auteurs des crimes de masse qui ont été commis,
oui,
ils doivent intérioriser que ces crimes-là sont imprescriptibles. Et donc, ces crimes vont les suivre jusqu'à leur mort. Et nous, au niveau de la justice transitionnelle, nous disons, le passé ne passe pas. Le passé ne passe pas. Et nous ne cessons de le dire dans les discours que nous faisons, non seulement avec les autorités et les victimes, nous disons que la justice transitionnelle aura toujours sa place. Et que si nous voulons avoir un futur radieux, il faut corriger, il faut traiter le passé. Il ne faut pas passer le passé inaperçu. Il faut se ressourcer sur ce qui s'est passé, trouver des réponses aux préoccupations de ce qui s'est passé, et alors on peut maintenant projeter avec toutes les assurances. Sinon, le passé va toujours nous rattraper. Le passé ne passe pas. Voilà.
Bon, si vous le voulez bien, nous allons avancer et essayer de parler un peu de la méthodologie et de l'approche de votre organisation. Donc, vous avez parlé de justice transitionnelle. Une des questions serait que vous extrapoliez un peu sur ce que vous dites en termes de justice traditionnelle, transitionnelle. Et est-ce que une autre question serait de savoir, quand vous parlez de justice transitionnelle, est-ce que vous pensez à une justice plus restaurative qu'une justice punitive, si on peut dire. Est-ce que, parce que vous aviez mentionné un peu plus tôt dans l'interview, malheureusement, j'ai eu un problème, que vous utilisez une approche différente plutôt qu'un parachutage, des approches qui viennent des autorités ou des organisations avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous utilisez une approche beaucoup plus, comment on peut dire, bottom-up, c'est-à-dire au niveau des communautés où il y a eu des exactions, vers les autorités en utilisant bien sûr le mécanisme de plaidoyer et le mécanisme de réconciliation, ou bien vous combinez les deux, c'est-à-dire les autorités, disons, les approches que l'État utilise pour essayer de confronter le passé, mais aussi en même temps les mécanismes traditionnels des communautés pour essayer justement de confronter ce passé. Est-ce que vous pouvez, de votre façon, nous parler un peu de l'approche que l'ICGP utilise à confronter le passé?
La justice transitionnelle elle-même, dans sa définition, n'est pas à confondre avec la justice classique, la justice judiciaire. La justice transitionnelle aussi n'est pas à réduire à la réconciliation ou au pardon qu'on accorde aux gens. La justice transitionnelle, c'est un ensemble des processus judiciaires et non judiciaire combinée. Et donc, si nous rentrons dans la définition, il y a les quatre piliers. D'abord, la justice elle-même. Il y a la vérité comme un autre pilier, les réparations, et il y a les garanties de non-répétition. Ça dépend de l'école. Il y a des écoles, au lieu de parler de la justice, parlent des poursuites pénales. D'autres parlent des recherches de la justice. Et donc, c'est selon une école à une autre. C'est comme, par exemple, au niveau de garantie de non-répétition, il y a une école qui parle de réforme institutionnelle. Donc, c'est selon les écoles. Ça va? Nous, nous mettons de côté ce débat d'école pour essayer de voir un peu le fond. Le fond, c'est que il y a la combinaison des aspects judiciaires et non judiciaires pour, n'est-ce pas, confronter le passé dans nos pays. Il y a aujourd'hui d'autres auteurs en dehors des premiers auteurs qui ont déjà commencé à penser aux cinq approches et ils essaient de particulariser l'approche de recherche de la vérité et ils éclatent l'aspect de pardon et ils parlent de la clémence. Comme un autre aspect, des gens comme le professeur Kilomba ici, d'autres acteurs internationaux. Et il y a même d'autres qui vont jusqu'à avoir une approche avec six piliers. Ils introduisent aujourd'hui la mémoire. La mémoire comme aussi un autre pilier de justice transitionnelle. Alors que dans les conceptions primaires, les premières conceptions, on mettait les mémoires au niveau soit de la vérité, soit au niveau des garanties des non-répétitions. Mais aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, d'ailleurs, on commence à ramener ça à un pilier de justice transitionnelle. Et donc, pour nous, la justice transitionnelle, ce sont les deux aspects, les aspects judiciaires et non judiciaires combinés. Et donc, pour nous, l'approche que nous encourageons, c'est l'approche holistique. L'approche où, pour répondre aux préoccupations congolaises, il faut utiliser les quatre approches. C'est ce que nous encourageons au niveau de notre organisation. Il y a des expériences d'autres pays qui existent, où on combine deux aspects. Par exemple, en Afrique du Sud, on n'a pas promu la justice. Il n'y a personne qui est entré en prison en Afrique du Sud après la commission Vérité et Réconciliation. Et ils ont dit c'est la vérité et la clémence, la vérité et l'amnistie. Donc, vous dites la vérité, vous êtes pardonné. Et donc, on a utilisé deux approches en Afrique du Sud. Mais il y a aussi ceux qui utilisent une seule approche, par exemple le Tchad. Au Rwanda aussi, c'est une approche, ils ont utilisé une seule approche, c'est la justice. La justice.
Quand vous dites justice, est-ce que vous parlez d'une justice plutôt correctionnelle ou une justice plutôt punitive qu'une justice restaurative?
Dans la justice transitionnelle, on combine le tout. C'est pourquoi nous encourageons l'approche holistique.
Mmh.
Ça va. Il faut que la justice joue son rôle. Il faut que la rétribution joue aussi son rôle. Donc, pour nous, il n'est pas question de considérer seulement la condamnation des gens, les gens qui entrent en prison, tout ça, tout ça. Ça fait partie du processus que nous nous encourageons. Mais entre-temps, tout le monde n'ira pas en justice. Tout le monde n'ira pas en justice. Ça va?
Ok.
Et donc, il y a une place de gens qui vont aller en prison. Il y a une place pour des gens qui vont être amnistiés. Mais qu'est-ce que signifie pour nous l'amnistie? Parce que la justice transitionnelle propose deux types d'amnistie. L'amnistie, conditionnelle, c'est-à-dire vous reconnaissez d'abord votre faute, n'est-ce pas? Après la reconnaissance de cette faute-là, vous pouvez même purger quelques fautes et puis après revient ce qu'on appelle les libérations conditionnelles ou la grâce présidentielle. Mais aussi, il y a une amnistie automatique.
Oui.
Et donc, on se réveille un matin, on prend une décision au niveau de la présidence, cette catégorie de personnes est amnistiée. Nous, au niveau de l'ICJP, nous n'encourageons pas ça. Le Congo a fait ça plusieurs fois.
Oui.
Nous, nous n'encourageons pas ça. Nous encourageons le fait qu'il y ait un minimum de reconnaissance. Et que les instances puissent se saisir d'abord de vous, et puis après, on peut vous pardonner.
Oui.
Voilà ce que nous nous disons. Donc, nous encourageons. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas une politique du traitement du passé.
Ok.
Ça n'existait pas. Il y a des tentatives, il y a des propositions qui sont en train d'être faites, Mukwege en a fait, il y a des consultations populaires qui sont en train d'être faites, il y a aussi une commission scientifique qui vient de publier un rapport là-dessus et qui a déposé le rapport au niveau du ministère de droits humains, mais tout ça, c'est dans le processus de la recherche de cette politique congolaise, une politique nationale de justice transitionnelle. Et donc, quand je parle de notre approche, c'est une approche de ICJP que nous voudrions amener le gouvernement à s'approprier, mais cela nécessite une implication du pouvoir public, de l'État. Il faut que l'État s'approprie un mécanisme, établit une politique, une stratégie dans laquelle tout le monde va s'inscrire. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, cette politique du gouvernement qui vient du sommet pose un problème. C'est pour cette raison, au niveau des ICJP, au niveau des partenaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain, au niveau de la coalition que nous animons, au niveau de notre pays ici, nous nous disons il faut impliquer la base. Et la base, c'est principalement les victimes regroupées. Nous avons des regroupements des victimes. Si je voyage avec vous à Kasika, nous avons trouvé un comité des victimes des atrocités des caciques et je vais vous mettre en contact avec le président et vous pouvez échanger sur ce qui s'est passé là.
Mais maintenant, est-ce que
si nous allons à Minova, vous allez trouver.
Est-ce que vous avez des mécanismes de, comment je peux dire ça, des mécanismes de, pas seulement de prévention, mais des mécanismes de détection au cas où les tensions arrivent dans des, disons, si on dit dans un langage courant, arrive dans le rouge. C'est-à-dire qu'on est au bord du précipice, au bord de l'explosion. Est-ce que vous avez des mécanismes que vous avez mis en place localement pour détecter, prévenir? Et si la prévention n'est pas possible, intervenir et essayer de harmoniser les efforts des organisations avec lesquelles vous travaillez pour justement intervenir dans des événements violents.
La justice transitionnelle prévoit ça. Je vous ai parlé des quatre piliers sur lesquels les gens doivent travailler pour. Il y a la justice elle-même, la recherche de la vérité. Pour les non-initiés, je préfère parler de la poursuite des auteurs.
Okay.
Ensuite, la recherche de la vérité. Les réparations, il faut réparer les préjudices. Et il y a ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Dans ce processus des garanties de non-répétition, il s'agit de mettre en place les mesures qui assurent les victimes et l'État que ce qui s'est passé ne pourrait plus revenir. C'est ça. C'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes pour garantir que ces choses ne se passent plus. Or, je viens de vous le dire tout à l'heure ici, notre pays n'a pas encore une politique. N'a pas une politique. Nous, au niveau de notre organisation, nous sommes en train de faire des propositions. Par exemple, nous avons proposé ce qu'on appelle le vetting électoral. Vetting électoral, ça signifie que ceux qui ont trempé dans les crimes ne se retrouvent plus dans la direction du pays, des institutions dans le pays. Dans la gestion des services de sécurité dans notre pays. Donc, dans la sphère sécuritaire, dans la sphère politique, ces gens-là n'ont plus de place. Nous avons proposé à les, avant qu'on publie même la loi électorale, nous avons encouragé que l'on puisse mettre cette disposition dans cette loi-là. Mais ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Nous avons travaillé sur le draft et nous avons fait des commentaires, des analyses par rapport au processus des DRC, démobilisation, réarmement, tout ça.
Désarmement, oui. Réinsertion communautaire.
Ce texte-là, il est passé. Et dans le fonctionnement de cette institution, on a mis quelqu'un qui, il y a des preuves, qu'il a participé dans les crimes à travers la structure, le RCD dans lequel il a travaillé aussi avec le CNDP. Vous comprenez? Les mécanismes ou les principes de justice transitionnelle n'acceptent pas ce genre de comportement. Pour prévenir, comment on peut mettre? Et aujourd'hui, même les démobilisés, ils disent comment une personne qui n'a jamais été démobilisée peut nous démobiliser, nous.
Exact.
Ça pose un problème.
Donc, il doit y avoir un partage d'expérience aussi.
Dans ce domaine-là.
Et même au-delà de ça, est-ce que vous-même...
Si nous regardons aujourd'hui dans l'état de siège, qui conduisent les états de siège? Nous voulons construire un état. Ça va? Mais est-ce qu'ils ont le profil des personnes qui sont disposés à ramener l'État dans un état de droit. Aujourd'hui, regardez le profil des gens qui dirigent le Nord-Kivu aujourd'hui. Regardez le profil des gens. Vous comprenez? Donc, c'est l'État qui doit prendre des mesures qui permettent d'anticiper, s'agissant de justice transitionnelle, c'est l'État qui a la grande responsabilité. Ce que nous faisons, ce sont des propositions. Ce sont des propositions. Mais nous n'avons pas un interlocuteur qui prend au sérieux les recommandations que nous sommes en train de formuler.
Mais est-ce que vous-même, vous prenez aussi, dans votre justice traditionnelle, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un rétablissement psychosocial, surtout dans les environnements post-conflit? Est-ce que vous prenez aussi en compte l'aspect psychologique, l'aspect traumatique, c'est-à-dire la guérison des traumatismes de ces communautés-là qui viennent de survivre une période post-conflit? Est-ce que vous avez souvent aussi un regard sur cet aspect des choses?
Ce que je suis en train de vous dire ici, peut-être, vous avez déjà été à Kanyola?
Non, mais j'ai des collègues.
Faites un effort de vous promener à Kanyola. Ce que l'on appelle les fous. Un fou, un malade mental, c'est pas quelqu'un qui porte des habits en lambeau, qui se promène à moitié nu, tout ça. Mais avec les guerres que nous avons vécues, le traumatisme, et dans la communauté qui subit ce genre de choses, il faut seulement se promener à Kanyola, vous allez vous rencontrer avec une catégorie de personnes qui tombent dans ce coup-là. Mais où se trouve le fou? On confond le fou avec tout le malade mental. Et donc, il est important, dans la recherche de cette politique nationale de justice transitionnelle, essayer de regarder comment on trouve des réponses sur les effets collatéraux des crimes que les gens ont subis. Moi, j'ai rencontré une dame à Nitouri qui, à chaque 10 mètres, elle dit « Muyukuru wangu, Muyukuru wangu, Muyukuru wangu. » Elle se rappelle de la scène qu'elle a vécue quand on l'a imposé des relations sexuelles avec son petit-fils. Je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce traumatisme-là et qui ont besoin, n'est-ce pas, de la guérison. De la guérison. Et la justice transitionnelle doit prendre en considération ce genre de choses. Il y a des expériences au niveau de l'Amérique latine. Il y a des expériences là-bas qui peuvent aussi servir de ce côté ici. Mais puisque le domaine de justice transitionnelle n'est pas encore ancré dans le chef d'un certain nombre de personnes ici, il est important que cet aspect aussi soit pris en considération. Ouais. On peut croire qu'on est en train de traiter de manière somatique les victimes parce qu'ils ont été ils avaient des blessures et tout ça, mais si on n'a pas traité leur tête, on n'aura pas un homme complet. Il est important dans ce processus de recherche d'une approche holistique du traitement de ces crimes là de tenir compte aussi de cet élément, et c'est très important.
Bon, et enfin, une autre question que je voulais vous poser, c'est d'essayer de savoir pourquoi est-ce que vous pensez, puisque le projet EJAM lui-même, c'est un projet pour lequel la population cible n'est pas vraiment le gouvernement ou les autorités politiques, mais c'est les établissements scolaires, surtout au niveau du secondaire. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important que les générations futures puissent non seulement être informées de des dynamiques ou même des variables de ces différents événements violents qui ont affecté l'histoire de cette contrée, de cette partie du pays, mais aussi pourquoi est-ce que vous estimez qu'une approche telle que la justice transitionnelle dans laquelle vous travaillez, qu'il est important d'informer les générations futures du secondaire sur cet aspect des choses, sur comment confronter le passé, être prêt à accepter les dures réalités des conflits armés et vraiment être informé et connaître vraiment son passé, même s'il est violent. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'un projet tel que EJAM ou qu'une organisation telle que ICGP doit informer, mais aussi encadrer les jeunes à confronter leur passé?
Oh, moi j'encourage ça. Ça me fait beaucoup de peine lorsque j'arrive à Kanyola et que je trouve un monument. Je trouve un monument et que les gens viennent même s'asseoir sur ce monument là-bas. Mais si vous leur posez la question, après le coup monument, ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, il y a une tendance de mettre une croix sur le passé. Il n'y a aucun cadre qui permet aux gens de savoir l'histoire même, ce qui s'est passé dans le milieu. Les jeunes que j'ai rencontrés à Kanyola, il y a une année, les événements se sont passés il y a 20 ans. Ils n'en connaissent rien. Et donc, nous devons connaître notre histoire. Et la justice transitionnelle peut nous permettre de comprendre notre propre histoire. Et lorsqu'on comprend l'histoire, n'est-ce pas, il y a moyen de projeter aussi et d'anticiper pour que ce qui s'est passé ne puisse plus revenir. Lorsque on institue ce genre de connaissances au niveau de l'école primaire, secondaire ou universitaire, c'est une façon de responsabiliser aussi l'État. Parce que ce qui est arrivé là-bas pouvait ne pas arriver si l'État avait joué son rôle. Et donc, ceux qui apprennent ces événements là-bas vont essayer d'examiner les responsabilités des uns et des autres.
Exact.
Ils vont savoir l'État n'a pas joué son rôle, mais aussi que pouvait faire ou que n'a pas fait la communauté pour empêcher que cette histoire-là ne soit arrivée. Quelle a été la complicité du gouvernement? Quelle pourrait avoir été la complicité aussi de la communauté autour de cette question-là?
Exact.
Et donc, au finish, ça permettrait une sorte de réconciliation entre les communautés, peut-être du passé et du présent et du futur, n'est-ce pas? Les communautés du passé, du présent et du futur, mais aussi mettre en relation les institutions entre elles. Et donc, c'est important aujourd'hui que l'on traite cette question de justice transitionnelle. Quand je parlais avec Madame Bintou Keïta, en réponse aux préoccupations que j'ai soulevées, elle m'a dit, Raphaël,
faites un effort pour que vos réflexions atteignent la dimension régionale. Donc, lorsque vous traitez de la justice transitionnelle dans votre pays, ici la RDC, sachez que la RDC n'est pas autarcique. Ce qui est arrivé en RDC a des ramifications ou a des connexions avec ce qui se passe au niveau de la région. Et donc c'est important d'intégrer la dimension régionale dans les réflexions que vous faites.
Exact.
Quand la crime est commis ici avec Afdel en 96, l'Afdel, même si Kabila, le père, l'a appelé conglomérat, mais c'était en connaissance de cause. Il savait que dans l'Afdel, il y a des gens qui ne sont pas congolais, qui sont venus d'autres pays et qui étaient dans cette dynamique-là.
Exact.
Quand nous avons vécu les événements de 98, nous oublions qu'il y a des étrangers qui ont apporté aussi leur contribution. D'ailleurs, on a dit rébellion du RCD soutenue par le Rwanda ou l'Ouganda, qui a soutenu le KML ou le MLC. Et donc, cette dimension régionale est aussi très, très importante. On a tué, qui a tué les gens ici. Et il y a moyen de trouver des terrains d'entente avec... je peux vous donner un témoignage de certaines personnes que j'ai rencontrées qui me disent que nous souffrons. Ça, c'est des personnes qui viennent du Rwanda, avec lesquelles j'ai des contacts, qui me disent nous souffrons ici. Vous pouvez vous imaginer que nous avons perdu des êtres chers qui sont allés répondre au devoir civil du pays dans la guerre en RDC, mais nous n'avons jamais fait le deuil. Ceux qui sont venus ici, ils sont morts ici, mais jamais il y a eu de deuil dans leur propre foi. Vous voyez un peu le traumatisme dans lequel vivent un certain nombre de personnes.
Mais maintenant,
et ici chez nous, il y a des personnes qui ont disparu. Les familles existent, les gens sont parqués. À quelle destination? Et donc, il faut regarder sur tous ces aspects-là.
Mais est-ce que vous pensez que quelque part, il y a juste de façon informelle, comme ça, une question pour avoir votre opinion personnelle, est-ce que vous pensez que l'État, d'une façon ou d'une autre, peut avoir directement ou indirectement encouragé cette politique de l'ignorance ou de la non-confrontation de ce passé-là, dû à différents enjeux sociopolitiques de du pays?
Non, il y a deux aspects. Compte tenu de la nouveauté de ce domaine ici, il y a beaucoup d'acteurs étatiques qui n'en connaissent rien. Ça peut être cette ignorance-là. Ils ne savent pas. Mais aussi, il y a, comme je vous l'avais dit, certaines personnes qui, en apprenant, sont en train de se rendre compte de la pertinence. Mais entre-temps, en craignant cette pertinence, ils créer des mécanismes pour ne pas encourager la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle dans ce pays. Surtout les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont trempé et qui ont trouvé leur refuge dans le pouvoir. Ils manipulent la justice, ils manipulent des politiques, ils mettent en place des politiques taillées sur mesure. C'est pour cette raison que, par exemple, dans le processus de mise en place de la justice transitionnelle dans ce pays ici. Le pouvoir encourage la mise en place des mécanismes non judiciaires. Et lorsque on évoque la question de la justice où les gens doivent répondre de leurs actes, le gouvernement n'encourage pas le processus. Pourtant, la justice transitionnelle, comme je viens de le dire, dans sa définition, c'est les mécanismes non judiciaires et mécanismes judiciaires mis ensemble. Le pardon lui-même n'aura pas d'effet dans le contexte congolais. Je peux vous donner un exemple. On a mis en place une commission de vérité au Kasaï et le processus est en mouvement. Mais avant cela, le ministre de la Justice est arrivé au Kasaï central pour aller demander pardon aux victimes au nom du gouvernement congolais. Ça s'est arrêté là. Je ne veux pas me mettre à la place des Kasaïens en général ou les victimes du drame de Kamuina Nsapu, mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont accepté ce pardon? Ou c'était un slogan? À supposer qu'ils ont accepté ce pardon là-bas au Kasaï central. Revenons au Sud Kivu. Est-ce que si le ministre des droits humains arrivait au Sud Kivu ici et qu'il venait demander pardon au nom du gouvernement pour les crimes commis et pour lesquels le gouvernement, entre guillemets, n'avait pas assez fait ou n'a rien fait, où le gouvernement n'avait pas empêché, et il vient demander pardon. Est-ce que vous êtes sûr que les Sud-Kivuciens, ceux des Kanyola, des Kasika, des Makobola, des Katogota, des je ne sais pas où, est-ce qu'ils sont prêts? Des Kavumu ici, des Mudaka ici, des Luincha, est-ce qu'ils sont prêts à accorder le pardon?
Et donc, il y a la notion de temps qu'il faut aussi en prendre en considération. Il faut que les gens soient prêts à subir, parce que la justice transitionnelle, ce n'est pas seulement un atout, c'est quelque chose de lourd qu'il faut subir aussi. Une vérité qu'il faut voir en face, que les gens sûrement décident peut-être inconsciemment ou peut-être consciemment de ne pas confronter.
Mais il y a 20 ans que ces événements ont eu lieu. Il y a 20 ans. Il faut attendre combien de temps pour que cette politique soit mise en place? Il faut attendre que les victimes meurent? Il faut qu'on vienne encore réveiller les cadavres? À quel moment? Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. C'est pourquoi j'encourage votre projet. Ça peut prendre... Et je viens de vous dire ici, ça ne vient pas de moi. Quand je dis que les crimes... internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide sont imprescriptibles. Donc les auteurs, ces actes vont les poursuivre jusqu'à la mort. Et ce sont ces auteurs-là, lorsqu'ils se cachent dans les institutions, ils bloquent le processus attendant leur mort. Nous, on ne peut pas encourager ça. On aurait souhaité que la justice fasse son travail aujourd'hui et que les rescapés, bon, s'il y a des rescapés, ici, il y a des gens qui n'ont pas encore... Mais les gens avec Hitler, ils sont en train de répondre encore jusqu'aujourd'hui. Bon.
Exact.
Donc, au lieu de se cacher éternellement, mettons en place des mécanismes qui nous permettent de répondre de faire en sorte que ce qui nous est arrivé, s'il faut pardonner, il faut pardonner. Ceux qui reconnaissent et ils pensent que leurs places sont dans la prison, ils vont dans la prison. Ceux qui doivent réparer, ils les réparent. L'État continue à réfléchir sur les mécanismes pour empêcher que cela ne nous arrive plus. Je pense que c'est dans ce processus qu'il faut aller. La justice transitionnelle encourage l'éducation. L'éducation. Il faut raconter à nos enfants l'histoire. Et la bonne histoire. Pas pour se venger. Non. Pour tirer des leçons positives, pour consolider la suite de l'homme.
Et c'est ça le but même de la justice restaurative.
Exactement. Ouais.
Bon, je vais vous demander de m'excuser, j'ai eu un problème technique. Si vous pouvez, vraiment en étant bref, parce que je sais qu'on a convenu que notre rendez-vous devait juste durer une heure, si vous pouvez survoler avec moi juste à votre façon, je ne veux pas vous interrompre, me parler encore du contexte, disons, vous représentez, me parler du contexte dans lequel l'ICGP a pris place et de me parler des acteurs. Moi, je vais essayer de me rappeler les questions que je vous ai posées au milieu pour qu'on puisse achever.
Moi, je peux me rappeler.
Parce que le gros de cette interview, c'est ce dont on vient de parler maintenant, l'approche
et
la méthodologie.
Je vais répondre à votre préoccupation. Même sans que vous puissiez poser la question, moi, je peux. Je m'appelle Raphaël Wakingi. Je suis coordinateur de ICJP, une organisation de droit congolais opérant dans la province du Sud Kivu. Il est vrai que ICJP est structuré, nous avons un conseil d'administration, nous avons un conseil de contrôle, mais nous avons aussi la coordination que je porte. Mais ICJP travaille fondamentalement, comme le dit le concept, sur la question de la justice et de la paix. Mais dans le contexte dans lequel ICJP est né, c'était un contexte un peu belliqueux, un contexte de post-conflit. En naissant, personnellement, je venais d'une organisation de droits de l'homme et on se posait la question, quelle va être la plus-value? Qu'est-ce que nous allons apporter comme contribution? C'est ainsi que nous avons, en dehors de toutes les questions de justice, de la paix, nous avons choisi de travailler aussi sur la question du traitement du passé, sur la question de justice transitionnelle. Pendant cette période-là, nous venions de deux guerres, notamment la guerre de Nantes avec l'AFDEL, avec toutes les conséquences que nous avons vécues, mais aussi nous avons vécu la guerre de 98 avec le RCD et avec toute la série des conséquences que nous avons vécues. Des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. On se réserve de qualifier des événements de crimes de génocide. Mais après cela, nous avons aussi vécu les événements de Sand City. Sand City, qui était un point dans lequel on a discuté aussi sur un certain nombre de préoccupations qui touchent la justice transitionnelle, notamment le fait de pouvoir prévoir qu'il y ait une requête pour la mise en place du tribunal pénal international pour la RDC. Toujours à Sand City, il était prévu aussi qu'on mette en place les institutions d'appui à la démocratie, dont la CVR, Commission Vérité et Réconciliation, qui a eu, mais dans mes recherches, dans une des publications que j'ai faites, j'ai dit que cette institution n'avait pas fonctionné, n'avait pas commencé son travail. 3 ans après, cette institution n'a plus été renouvelée, mais au niveau de la Constitution, il est prévu que si la population demandait encore une commission de vérité, ça puisse encore fonctionner. Mais aussi, toujours avec la Sand City, il était prévu que l'on reconnaisse les victimes, la reconnaissance de victimes. Ces éléments là-bas sont parmi les éléments précurseurs de la dynamique de justice transitionnelle dans notre pays. Après Sand City, comme si ça ne suffisait pas, en 2004, ici, nous avons vécu la guerre. La guerre de Nkunda et de Mutebusi. Les gens sont morts encore et ils se sont ajoutés aux crimes qui ont été commis en 98, en 96 sur ces crimes-là. Et après 2004, il y a eu une sorte de foisonnement des conflits armés dans les différents territoires de la province du Sud Kivu, à Calais, à Fizi, à Mwenga, à Ouvira. Donc, il y a eu beaucoup. Tous ces éléments là-bas, en fait, ont renforcé la dynamique de justice transitionnelle, le processus dans lequel il s'est posé un problème dans ce contexte-là, que après Kabila le père, nous soyons confrontés avec un pouvoir qui avait en son sein un certain nombre de personnes présumées auteurs de crimes, certaines personnes qui avaient participé dans des crimes qui ont été commis et qui n'avaient pas encouragé la mise en place des discussions sur la justice transitionnelle. Ils n'ont pas encouragé, même si au sein de la société civile, avec un certain nombre d'acteurs, nous avons osé jusqu'à obtenir des réflexions sur les chambres spécialisées mixtes, y compris au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du Sénat. Et cela nous a donné une certaine force dans le processus dans lequel. Et donc ce régime-là n'avait vraiment pas encouragé le processus de justice transitionnelle. Le régime actuel constitue un atout, mais même s'il y a une certaine volonté, nous pensons que le chemin il est encore très long pour qu'on puisse obtenir avec le régime actuel un mécanisme solide de justice transitionnelle. Alors, dans le travail que nous faisons, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels nous avons travaillé et d'autres avec lesquels nous poursuivons notre travail. Au niveau local, nous avons des partenaires qui sont dans ce que nous avons appelé des chambres de regard, et qui collectent des informations des droits de l'homme dans leur milieu et qui partagent avec nous leurs préoccupations que nous relayons aussi au niveau des autorités provinciales, au niveau des autorités nationales et au niveau de la communauté internationale. Mais à côté de cela, nous collaborons avec les organisations de la société civile, principalement ceux qui sont du domaine du droit de l'homme et de l'éducation civique. Et avec, nous avons mis en place le RADOSKI, le réseau des associations du droit de l'homme du Sud Kivu. Et au niveau national, nous avons mis la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, dont les membres se trouvent dans les provinces anciennement appelées provinces de la République démocratique du Congo, mais qui ont été morcelées avec le démembrement des provinces. Nous n'avons pas suivi la redistribution administrative de l'État, mais nous continuons à travailler dans le rayon de l'ancienne configuration. Donc, nous avons des focal points dans ces provinces là-bas. Et lorsque nous faisons des activités d'obédience nationale, nous les invitons et nous faisons le travail ensemble.
Et tout ça dans le but de prendre en considération les contextes de chaque province.
Exactement. Okay. C'est dans la mise en place du contexte que nous venons de remettre notre propre travail en cause, en nous disant, c'est vrai que nous sommes déjà au niveau de la capitale, mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avancer en laissant derrière nous les réalités de chaque province. C'est pourquoi nous sommes en train de donner la force aux provinces. C'est ainsi que dans la province du Sud-Kivu, nous avons un comité provincial de justice transitionnelle. Au Nord-Kivu, il y a un comité provincial. Dans la Tchopo, il y a un comité provincial. En Ituri, il y a ce qu'on appelle la coalition iturienne de justice transitionnelle. Dans le Katanga, les discussions aussi ont commencé, et dans le Tanganyika. Et donc, nous sommes en train d'encourager qu'il y ait des mécanismes qui permettent au niveau des provinces de pouvoir... Alors, dans ce contexte-là, nous sommes en train de consolider aussi le regroupement des victimes pour que les victimes prennent en charge leur propre destin. C'est vrai que nous pouvons les accompagner, mais dans une dynamique, nous avons des regroupements des victimes. Très bientôt, ici, nous allons faire une réunion, ici, je pense, où on va créer une coalition des victimes, donc qui regroupe les victimes de chaque rayon où il y a eu des crimes et où il y a des regroupements des victimes. On va prendre les staffs et faire une structure provinciale des victimes qui va venir se rejoindre aux organisations pour faire corps ensemble et voir comment on peut aller vers l'État. Pour que l'État prenne ses responsabilités autour de cette question. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit aussi sur le plan régional ici, nous collaborons avec la Ligue, la LDGEL, au niveau régional ici, mais aussi nous avons des relations avec certaines organisations internationales comme Amnesty International, comme Human Rights Watch. Nous avons collaboré avec la Fondation suédoise pour le droit de l'homme, la Fondation norvégienne pour le droit de l'homme. Nous collaborons avec NED, nous collaborons avec Oak Foundation, nous collaborons avec Trial International, nous collaborons avec Impunity Watch, nous collaborons avec Trial International, j'ai ajouté le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais le partenaire difficile dans notre collaboration reste encore le pouvoir public, le gouvernement congolais. Il y a une certaine manifestation de la volonté. Nous pensons que si nous concourons les efforts, ça peut être une bonne chose pour la consolidation de l'État congolais. Un État dans lequel les victimes sont reconnues, un État dans lequel les institutions prennent ses responsabilités, dans lequel les acteurs de la société civile sont considérés comme partenaires et non pas comme ennemis du pouvoir. Voilà.
La question, une des questions, il y en avait en fait deux questions. Est-ce que vous pensez que la relation tidieuse que vous avez avec le gouvernement a un rapport avec le fait qu'il y a un certain niveau d'impunité des gens qui sont inclus dans le pouvoir? Et une autre question, c'était de savoir est-ce que la multiplicité de tous ces partenaires constituait un atout ou un obstacle à l'aboutissement de vos objectifs en tant qu'organisation des droits de l'homme.
Bon, j'ai dit que par rapport aux partenaires, j'ai fait un commentaire pour dire que les organisations de la société civile fonctionnent avec des moyens de partenaires extérieurs principalement. Les propres membres des organisations qui devraient soutenir le fonctionnement des organisations, ce sont des membres qui n'ont pas les moyens de leur politique. Ils sont pauvres, ils n'ont pas des moyens pour soutenir les organisations. Et donc, on attend les moyens des partenaires extérieurs qui, eux aussi, ont des intérêts, ils ont leur plan, ils ont leur stratégie. Et en collaborant avec les organisations internationales, il n'y a pas toutes les assurances. Vous avez un financement pour une année, vous n'en avez pas nécessairement pour la deuxième année. Vous pouvez l'avoir pour trois ans, mais la quatrième année, c'est pas sûr et tout ça. Mais aussi, chaque pays a ses intérêts. C'est pour cette raison que, de manière stratégique, les organisations préfèrent collaborer avec plusieurs partenaires extérieurs de manière à ce que l'un des partenaires, si la collaboration n'est plus démise, alors on travaille avec un autre au fur et à mesure. On aurait souhaité que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités parce que nous apprenons chaque fois qu'au niveau du budget national, il y a une ligne qui pourrait soutenir les organisations de la société civile, mais comme je l'ai dit, personnellement, je n'ai pas de témoignages de ces organisations, je ne suis pas à mesure de citer les organisations, et moi-même, 30 ans après, je n'ai jamais obtenu du soutien du gouvernement. Mais le gouvernement reste un partenaire incontournable dans le processus dans lequel nous voulons nous engager. S'agissant des... Est-ce que vous avez demandé là encore?
C'était d'essayer de savoir si la relation tidieuse qu'il y a entre le gouvernement congolais, le fait que le gouvernement congolais ne s'implique pas davantage,
ouais,
a un rapport avec le fait que le régime peut vouloir protéger impunément certains des acteurs soupçonnés de ces exactions.
Il y a plusieurs éléments qui peuvent justifier l'attitude du gouvernement, notamment l'ignorance. Le domaine, il est nouveau. Même ceux qui croient connaître le concept, ils n'en connaissent pas du tout le contenu. Et ça pose un problème, surtout lorsqu'on approche les acteurs étatiques. Très peu d'entre eux ont des connaissances dans ce domaine-là. Mais il y a dans le service étatique, dans les institutions, certaines personnes qui peuvent avoir déjà obtenu des informations, mais ils craignent le domaine. Ils comprennent la pertinence, mais ils ne peuvent pas se jeter facilement dans sur ce chemin, parce que la plupart d'entre eux, ou certains d'entre eux qui se retrouvent au pouvoir, ils ont les mains liées. Ce sont des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, trempé dans les crimes qui ont été commis dans ce pays ici, et ils ne voudraient pas qu'ils puissent creuser leur propre tombe eux-mêmes. Mais il y a un intérêt vraiment, si nous voulons avoir un état de poids, d'aller au-delà des mesures taillées sur mesure, mais de regarder la réalité en face, de manière à ce qu'on puisse donner la chance à notre état et aux générations futures de pouvoir bénéficier de ce pays ici. Voilà.
En tout cas, je voulais vous remercier personnellement de vous être disponibilisé. Ce projet, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui cadre avec la rémémorisation du passé violent de la province du Sud-Kivu et de quelle façon nous pouvons promouvoir un projet test dans les établissements scolaires pour essayer de tester les niveaux d'empathie des élèves, essayer de les informer et essayer de voir si nous pouvons convaincre les autorités d'inclure le chronogramme qui viendra des données qu'on aura accumulées au cours de la collecte des données dans le programme d'éducation civique et morale. Et donc, pour nous, c'est important de parler à des gens qui ont déjà eu à parler aux victimes, qui ont déjà eu à explorer cet aspect de la remémorisation du passé.
Bon, moi, je pense que c'est légitime ce que vous voulez demander. Dans le programme, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas enseignant, quoi, mais je connais quand même un certain nombre de choses. Si vous ne pouvez pas obtenir l'intégration de cela dans un programme bidon, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui bousculent pour chercher à demander au ministère de l'enseignement primaire et secondaire à doter le programme d'éducation civique un contenu. Je pense que ça peut aller là-bas. Mais aussi, il y a d'autres programmes. Vous savez que quand nous avons grandi, nous autres, moi j'ai terminé l'école secondaire en 84. J'ai terminé l'université en 89. Quand je lisais notre programme d'histoire, je me demandais quel est le contenu qu'on a donné au cours de l'histoire dans notre pays. On nous apprend ce qui se passe en Europe, en Occident. Une partie de ce qui se passe en Afrique. Mais très peu d'éléments sur ce qui se passe dans notre propre pays. Peut-être que c'est Mobutu qui avait bloqué ça et n'a pas voulu qu'on puisse parler. Peut-être que aussi déontologiquement, on ne veut pas qu'on puisse parler des éléments récents dans notre pays. Mais ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, ce sont des éléments du passé. Du passé. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir de manière à ce que dans le programme de l'enseignement, au lieu nécessairement de croire qu'on peut remplacer, mais on essaye de trouver des espaces dans d'autres programmes qui existent et dans lesquels on peut intégrer ces éléments là-bas. Notre histoire est connue par qui? Notre histoire est connue par qui? Et nous voulons que notre histoire soit connue par qui, si ce n'est pas d'abord par nous-mêmes.
Exact.
Il semble que...
Papa Gervais Tira m'a posé la même question.
Oui.
Il m'a posé la même question.
C'est un ami. Moi, je dis, si dans notre pays, on vous dit que les archives doivent être conservées pendant, je ne sais pas si c'est 30 ans ou 50 ans, il faut un peu chercher. Mais qui va nous rappeler que ces archives doivent être mises à la disposition des gens maintenant? Ou alors on attend les faire disparaître d'abord avant que l'histoire puisse les exploiter. Et donc moi je me dis qu'il y aurait des dispositions qui empêcheraient que certaines informations avant telle date ou telles années ne puissent pas être évoquées. Mais on attendra. Pourquoi?
Pourquoi il faut attendre toutes ces années-là? Donc il faut interroger aussi cet aspect là-bas, dans le processus que vous voulez mettre en place. Ne pas vous attaquer seulement à ce programme qui est presque vide, mais il y a des programmes qui existent, mais qui ne nous apportent pas suffisamment d'éclairage par rapport à ce que nous devons connaître de notre pays et ce que nous devons faire connaître aux autres par rapport à ce qui se passe ici. Et il faut encourager donc les recherches aussi, les recherches pour permettre aux étudiants aussi de commencer à creuser pour enrichir le processus dans lequel nous nous engageons. Pourquoi ne pas donner des bourses aux étudiants? Moi, je sais qu'il y a certains étudiants qui sont en Belgique, qui collaborent avec moi, qui discutent avec moi sur les thèses ou les articles qu'ils sont en train de produire. Mais sur le terrain, ici, il faut encourager les étudiants à aller dans ce sens-là. Ça peut nous aider.
En tout cas, je ne peux que vous remercier de vous être disponibilisé.